ramenant leur parc à terre, ils laissèrent tout ce qui leur appartenait et ils le suivirent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est un évangile bien touchant que celui d'aujourd'hui, puisque c'est celui qui nous rapporte le début du fait que les apôtres, en ce jour, ont commencé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Touchant également parce que au début de l'évangile, on nous parle des foules qui irruerent in eum, qui se pressaient, qui se compressaient, qui se bousculaient presque pour entendre notre Seigneur et pour l'approcher, pour le voir. Les foules étaient vraiment subjuguées par notre Seigneur qui partout guérissait les malades et surtout elles n'avaient jamais entendu parler quelqu'un comme lui. Là, elles étaient tellement denses et serrées que notre Seigneur ne pouvait plus leur parler parce qu'il n'y avait pas moyen de prendre de recul par rapport à elles ou de s'élever un peu au-dessus d'elles pour se faire voir et se faire entendre. Et voilà qu'il avise deux barques de pêche, des pêcheurs qui rentraient de leur tournée. C'était vers le matin, ils avaient travaillé toute la nuit et ils n'avaient rien pris. Les seules choses qu'ils avaient attrapées dans leur filet, c'était de la vase, des algues, et donc des saletés qu'ils allaient être obligés de nettoyer, mais des poissons, point du tout. Et ils étaient bien déçus parce qu'après une nuit entière, où ils espéraient faire une bonne prise, ils revenaient complètement bredouille. Et ils étaient là, ils avaient déjà mis leur barque à la mare, ils descendaient les filets et ils commençaient à les nettoyer. Et notre Seigneur, voyant cette foule qui le pressait, monte sur le navire, ou plus exactement sur la barque, qui n'était ni une toute petite barque, c'était quand même une barque assez importante, mais ce n'était pas non plus un gros bateau, c'était seulement un lac sur lequel il pêchait, mais un lac quand même d'une grande dimension, le lac de Génézaret. Et ce bateau était celui de Simon, que notre Seigneur allait appeler un jour Pierre. Et il lui demande, Simon, est-ce que vous me permettez de prêcher depuis votre navire? Et Simon, le futur Saint-Pierre, s'empresse de dire oui, et il lui demande de s'écarter un petit peu, d'écarter un petit peu la barque de la berge, de façon à ce qu'il ait un peu de recul. Notre Seigneur s'assoit sur la barque et il commence à prêcher. Et là, les foules l'écoutent. Et à la fin de la prédication, pendant que les foules sont en contemplation, sont en train de réfléchir à la parole de notre Seigneur, et commencent à penser à se disperser, en voyant qu'elles ne peuvent plus l'atteindre, notre Seigneur se tourne vers Simon et lui dit, « Duc in altum, allez un peu vers le large, afin de jeter vos filets pour prendre du poisson. » Et Simon lui répond, « Maître, nous revenons d'une nuit entière d'efforts et nous n'avons rien pris. Cependant, par respect pour vous, car ils savaient déjà qui il était, d'abord ils voyaient les foules qui le suivaient, mais ils savaient aussi déjà un petit peu qui il était, sans trop encore savoir jusqu'à quel point ce qu'il était, mais il savait déjà que c'était le Messie qui était attendu, car ils étaient disciples de Saint Jean-Baptiste. Et ils avaient entendu Saint Jean-Baptiste annoncer depuis des mois que derrière lui venait le Messie. Et puis ensuite, ils l'avaient vu le jour du baptême de notre Seigneur, ils avaient entendu la voix du Père, ils n'avaient pas bien entendu ce qui s'était dit, mais ils avaient entendu un témoignage de Dieu venant sur notre Seigneur. Et ensuite, ils avaient vu une autre fois Saint Jean-Baptiste leur dire « Celui-ci est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Voilà celui que je vous annonçais, dont j'ai dit que je n'étais pas digne de lui dénouer la courroie des sandales. » Donc, ils savaient qui était notre Seigneur. Et sur votre parole, dit Simon, je jetterai les filets. Et vraisemblablement, il n'a pas été très loin. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'après, il va appeler l'autre bateau, l'autre barque, où se trouvent ses associés, les fils de Zébédée, à savoir le futur Saint Jean et son frère, le futur Saint Jacques. Tandis que Pierre, ou Simon-Pierre, est avec son frère André. Il lance les filets et tout d'un coup, le navire penche un petit peu, ils n'arrivent déjà plus, avec du mal, ils ont du mal à remonter le filet qu'ils ont jeté. C'est à tel point que ça commence à se rompre, ils remettent les poissons, ils s'empressent de jeter un deuxième filet, pareil, c'est à nouveau plein, et comme ils sentent que les filets commencent à lâcher, les deux autres frères, venez nous aider. Les autres arrivent avec leur barque, et ils jettent leur filet à leur tour, et nous dit l'évangéliste Saint-Luc, c'est à tel point que non seulement les filets en sont à craquer, et vous remarquez la différence avec après la résurrection où ils auront aussi notre pêche miraculeuse, mais où les filets ne craqueront plus. Et nous dit l'évangéliste, les deux barques furent remplies à tel point qu'elles en étaient presque à prendre l'eau. Le poids les faisait. L'eau venait jouxter avec le bord de la barque. Alors, Simon, qui avait travaillé avec les autres pendant toute la nuit, qui n'avait absolument rien pris du tout, quand il voit ça, après avoir entendu le discours dont on ne sait pas ce que notre Seigneur a dit, mais certainement qu'il devait être très touchant, alors il se jette aux pieds de notre Seigneur. Et puis il lui dit, cette fois-ci il ne l'appelle plus préceptor, il ne l'appelle plus maître, mais il l'appelle dominé, il l'appelle seigneur. Il comprend encore un petit peu, déjà un peu mieux à qui il a affaire. Alors il se met à ses genoux, Seigneur, éloignez-vous de moi, parce que je suis qu'un pauvre homme pécheur. Je suis rempli de péché, je ne suis pas digne de vous approcher. Et notre Seigneur, touché par cette humilité, il sait d'ailleurs très bien à qui il s'adresse, notre Seigneur, car il connaît les esprits et les cœurs, il vit dans les cœurs, et s'il est venu là pour les choisir, tous les quatre, c'est parce qu'il savait leur valeur intérieure. C'était parmi les meilleurs disciples de Saint Jean-Baptiste, et parmi les meilleurs de tout Israël. Il lui dit, notre Seigneur, Simon, ne crains pas, car ce n'est plus des poissons que je vais t'appeler à prendre dans tes filets, mais des hommes. Et c'est là que l'évangile nous dit, ils ramenèrent les barques à terre, et laissant tout, ils le suivirent. Qu'est-ce que ça veut dire, laissant tout? Ils ont certainement à nouveau amarré leur barque. Est-ce qu'ils ont pris le temps de décharger les poissons ou non? Ça ne nous est même pas dit. On sait que Saint-Pierre et les fils de Zébédée avaient leur père tout près. Saint-Pierre aussi avait de la famille tout près. Donc ils ne se sont même pas inquiétés de savoir ce qu'allait devenir leur filet, leur bateau, leur poisson. Ils ont même laissé leur famille. Simon avait été marié. Eh bien, depuis ce jour-là, il va quitter son épouse avec son consentement pour suivre notre Seigneur. Il laisse tout. Il laissèrent pas un petit peu, une moitié, il laissèrent tout ce qui leur appartenait, et leur famille, et leurs parents, et leurs amis, et tout le reste, et ils le suivirent. Voilà le touchant évangile d'aujourd'hui. Quelle leçon en tirer devant ce merveilleux exemple des tout premiers apôtres? Eh bien, si les apôtres quittent tout, et leur filet, et leur barque, et surtout leur famille, et même la pêche formidable qu'ils viennent de faire, ils ne pensent même pas à prendre avec eux des poissons qu'ils viennent de prendre. C'est parce qu'ils ont compris que ça valait la peine de tout laisser pour servir notre Seigneur. Certainement que leurs motifs ne sont encore pas très nobles, bien qu'on voit l'humilité de Simon-Pierre dès le début. Écartez-vous de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. C'est pas lui qui a demandé à suivre notre Seigneur, c'est notre Seigneur qui lui a fait l'honneur de l'appeler. Il en est très heureux et avec simplicité, il le suit. Certainement, bon, on le voit plus loin dans l'Évangile, ils vont espérer des places de ministre ou de chef d'armée, etc., puisqu'ils attendent un Messie qui soit un Messie temporel. À cette époque-là, certainement, ils n'aspiraient pas aussi haut. Simplement, ils se disaient, si les gens peuvent être à son service et l'approcher et le servir et être parmi ses serviteurs, ses familiers, même pour lui rendre les usages les plus simples, oh, quelle gloire et quel bonheur déjà. En tout cas, ils laissent tout et ils le suivent. Et voyez combien dans l'histoire de l'Église, notre Seigneur souvent a appelé des âmes en leur disant, si vous le voulez bien, car notre Seigneur ne force pas, laissez tout. Vendez vos biens, distribuez-les aux pauvres, et puis venez, suivez-moi. Eh bien, il y en a, dans l'histoire de l'Église, des centaines, des milliers, et on peut dire des millions d'âmes qui ont entendu cet appel. Des milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui ont tout quitté. Les belles espérances qu'ils pouvaient attendre d'une belle profession, d'un beau mariage, la situation très élevée quelquefois de leurs parents, pour se donner entièrement au bon Dieu. Et là, ils ne rêvaient pas de devenir ministre ou de devenir chef d'armée et autres. Ils savaient très bien, ceux qui se donnaient ainsi, qu'ils se donnaient pour une vie toute spirituelle. Alors, bien entendu, dans l'histoire de l'Église, parmi ceux qui se sont donnés au Seigneur, tous n'ont pas eu d'aussi nobles sentiments, puisque Saint Robert Bellarmé, en voyant le protestantisme, en donne comme une cause. C'est qu'à notre époque, dit-il, beaucoup de ceux qui se sont donnés au Seigneur ne se sont pas donnés à lui pour le servir, mais pour se servir eux, pour avoir une situation assez agréable, car dans les époques de chrétienté, pour certaines vocations, ça pouvait avoir des revenus assez conséquents. Donc pour avoir une situation comme une autre, et même bien confortable, et avoir certainement une certaine part d'aise, etc. Mais ce n'est pas cela et qui ont fait la grandeur de l'Église, ni qui ont servi notre Seigneur comme il fallait. Mais ce qu'on a vu par contre, ce sont des fils de princes, comme par exemple Saint Félix de Valois, qui est allé au désert, et puis comme il a eu peur, il n'était pas tellement loin comme héritier de la couronne, je crois qu'il n'y en avait que 4 ou 5 avant lui. Alors, il s'est vite fait ordonner prêtre en disant, une fois que je serai clair, je ne pourrai plus, si jamais mais ceux qui sont avant moi meurent, je ne pourrai plus devenir roi, parce que moi je préfère être serviteur du Christ que d'être roi. Et le roi de France, qui était le plus grand royaume à l'époque. Et combien d'autres se sont donnés ainsi, soit dans leur jeunesse, soit même dans leur vieillesse. Puisque le grand saint François de Borgia, qui était d'une famille extraordinairement puissante, il avait vu l'impératrice Isabelle, qui était si belle, et puis elle était morte, dans sa plus belle jeunesse. Et lui, qui la connaissait bien, il avait été chargé de reconnaître son corps, et comme elle était atteinte d'une maladie, le corps il était tout déformé, tout noir. Alors quand il a vu ça, ça lui a retourné le cœur, et puis il a dit, ben voilà, voilà ce que c'est que la beauté d'ici-bas, voilà ce que c'est que les choses d'ici-bas, ça passe. Et alors, il a quitté tous ses biens, il a tout vendu, et il est rentré chez les Jésuites. Et il en est devenu d'ailleurs, sans l'avoir recherché après, le troisième général. Saint François de Borgia, eh bien il a réussi, par son exemple et par ses exhortations, à entraîner encore quelqu'un de beaucoup plus puissant que lui. Un des empereurs les plus puissants, à savoir Charles Quint, qui, s'il vous plaît, dominait sur tout l'empire allemand et italien, le Saint-Empire romain germanique, mais qui en plus était roi d'Espagne, qui avait donc tous les royaumes d'Espagne, toutes les possessions d'outre-mer de l'Espagne en Amérique du Sud, plus toutes les possessions de Flandre et de Dauphiné, c'est-à-dire un empire comme il y en avait rarement eu d'aussi étendu. Il dominait en plus le royaume des deux Siciles aussi, dans le sud de l'Italie. Eh bien, à la fin de sa vie, il a renoncé à tout ça et il s'est fait moine. Encore Charles Quint. Donc, vous voyez, certains, ça a été dans leur jeunesse, certains dans leur vieillesse ou dans leur âge mûr, ils se sont donnés entièrement à notre Seigneur. Ils ont fait passer la religion avant le reste. Et non seulement ils lui ont donné la meilleure part de leur vie, mais pour la plupart, ils lui ont donné toute leur vie. Et dans beaucoup de cas, ce n'était pas une vie de tout repos. Si vous prenez les congrégations bénédictines qui ont été les plus nombreuses, il y en a une ici, pas très loin, qui a été une des plus grandes, celle de Cluny. Eh bien, celle de Cluny, à certains moments d'apogée, vous aviez dans l'abbaye 500 et quelquefois plusieurs milliers de moines. Et puis, ils avaient des filiales. Dans toute l'Europe, il y avait des monastères qui s'ouvraient partout. Et sur le nombre des enfants, mais il y en avait une grande partie qui était qui moine, qui religieuse, qui prêtre séculier, qui ceci, qui cela. Le nombre de gens qui se donnaient au Seigneur au moment de chrétienté, c'était étonnamment nombreux. Dans la seule ville de Moulins, essayez de compter tous les couvents, les monastères qu'il y a pour le nombre de maisons. Ils étaient remplis à l'époque. Regardez le nombre d'âmes qui se donnaient. Tout le monde n'est pas appelé à donner toute sa vie à la religion. C'est un privilège que notre Seigneur fait, car ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit, bien que il nous choisit librement. Il met au fond du cœur de ces jeunes gens et de ces jeunes filles le désir de se donner, mais après il faut qu'ils y répondent. Mais c'est néanmoins notre Seigneur qui les appelle. Et tout le monde n'y est pas fait. Le père de Sainte Thérèse, la mère de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus, ont voulu chacun de leur côté se donner au bon Dieu. Elle, devenir religieuse, lui, devenir moine. Il a frappé 3 fois à 3 couvents différents. Il a été reçu pendant quelque temps, d'ailleurs. 3 fois, on lui a fait comprendre que non, il n'était pas fait pour la vie religieuse. Et effectivement, ni l'un ni l'autre n'était fait pour la vie religieuse. Ils étaient faits pour fonder une belle famille, d'où devait naître celle dont le pape Saint Pie X a dit qu'elle était la plus grande sainte des temps modernes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec 3 de ses sœurs carmélites et une autre à la Visitation. Voilà, ils devaient être des parents modèles qui devaient susciter d'autres vocations dans leur famille. Voilà à ce à quoi ils étaient appelés. Le roi Saint-Louis, il ne s'est jamais posé la question s'il allait rentrer au monastère. Pourquoi ? C'était pas son devoir d'État. Le bon Dieu en avait fait un prince de sang royal, il était fait pour devenir roi. Il n'a jamais pensé à faire autre chose que de devenir roi. Mais il est devenu un saint roi. Et combien de saintes mères de famille, combien de saints doivent leur sainteté à leur mère? Saint Bernard, par exemple, qui n'est pas si loin non plus d'ici, sa mère était la bienheureuse Alette. Et à chaque fois qu'elle avait un enfant, elle le prenait comme une hostie et elle les élevait vers le ciel en disant « Bon Dieu, je vous les offre ». C'est que le bon Dieu l'a pris au sérieux. Saint Bernard était tellement aimable. Tous ses frères, quand ils ont appris qu'ils voulaient aller au monastère, ils ont essayé de le détourner. « Oh non, toi tu ne vas pas nous laisser, tu vas pas nous laisser, on t'aime trop, on ne pourra pas se passer de toi. » Et ils ont tout fait pour pas qu'il y aille. Et lui, il était tellement lié à Dieu. « Ah non, non, il n'y a rien à faire, j'irai. Si vous ne voulez pas me quitter, vous n'avez qu'à venir avec moi. » Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et ses amis, ils étaient tous tellement attachés à lui. Quand il est allé taper à la porte du monastère chez Saint Robert, qui c'était dans le tout début à l'abbaye de Citeaux, il est arrivé à frapper à la porte, ils étaient 30 à le suivre. Et il n'y avait que sa sœur qui était restée dans le monde, qui avait une belle place, elle avait fait un beau mariage. Alors elle a dit, oh, ben, je vais voir mes frères qui sont nigauds. Hein, puis je vais leur montrer ce que c'est, et voir ce qu'ils ont perdu. Alors elle est venue avec tout un étalage de richesses, etc., parce qu'elle avait fait un mariage puissant. Et quand elle a vu son frère, quand elle l'a entendu parler et autres, elle est repartie en larmes, et c'est elle qui a regretté de ne pas avoir fait comme eux. Et le plus jeune frère, les autres lui ont dit, ben écoute, nous on suit Bernard, on te donne tout l'héritage. Et il n'y a pas que les frères qui l'ont suivi, mais son père aussi est venu avec eux. Même le père, il s'est laissé entraîner. Alors au plus jeune, ils lui ont dit, ben, on te donne tout l'héritage. Comme ça ne sera pas morcelé. Ils étaient assez nombreux de frères. C'est toi qui hérites de tout. Alors le plus jeune, il n'était encore pas en âge. Il a dit, ah oui, alors, vous me donnez l'héritage. Vous prenez l'héritage du ciel, et puis vous, à moi, vous me donnez l'héritage de la terre. Ah non, je ne marche pas. Et quelques années après, quand il a eu l'âge, il est rentré aussi au monastère. Et Saint Bernard a entraîné des centaines et des centaines de vocations. J'ai vu une carte en Angleterre des monastères anglais, de Citeaux, toute l'île en était pleine. Et c'était pareil dans toute l'Europe. Eh bien, Tout le monde n'est pas appelé à cela. Bien que beaucoup de saints nous disent qu'un chrétien sur trois est appelé. Mais nous dit aussi notre Seigneur, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et par contre, si nous ne sommes pas tous appelés à donner toute notre vie à la religion, nous sommes tous, absolument tous appelés à donner dans notre vie la part principale à la religion. Et combien de mères de famille, donc Sainte Alette, combien de veuves, combien de pères de famille, combien de rois, car il y a beaucoup de rois qui sont sur les autels, combien de jeunes princes se sont sanctifiés dans la vie de tous les jours, combien de pauvres petites filles, comme Saint-Germain Cousin qui n'a fait que garder les moutons pendant toute sa vie, dans la simplicité de la vie de tous les jours, elle s'est sanctifiée, et regardons la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire. Elle ne s'est pas donnée non plus, il n'y avait pas de monastère à l'époque, mais de toute façon, sa vocation, ça avait été aussi d'être dans la Sainte Famille. Et nous dit Saint Bernard, elle est à la fois le modèle des femmes mariées et des vierges. Alors nous sommes tous appelés à donner la part principale de notre vie, de notre cœur à la religion. La religion, ce n'est pas la dernière roue de la charrette. Si ça l'est dans une vie, c'est que cette vie, elle est gâtée, elle n'a pas atteint son but. Dieu nous a créés pour le ciel, pas pour la terre. Toutes les autres occupations qu'on peut avoir sur la terre, ce sont des occupations secondaires par rapport à la religion. C'est ce que, dans la doctrine des douze apôtres, eh bien, c'est ce qui nous est rappelé. Ne nous dites pas que vous n'avez pas le temps de faire la religion, hein, parce que vous êtes pris dans des affaires séculières, où vous avez beaucoup, une grosse société à faire tourner, etc. Parce que cette grosse société, c'est secondaire par rapport à la religion. Voilà ce qui est en gros, ce qui est dit en esprit dans la Didaquée, qui date du 1er siècle. Et quand on regarde l'éternité par rapport à la vie de la terre, nous sommes plus tout très jeunes, nous sommes dans la dernière partie souvent de notre vie, nous avons vu autour de nous notre père, notre mère, ou notre époux, ou notre épouse qui est mort ou qui est morte. Nous savons que nous ne sommes pas éternels, que la vie ça passe vite, plus on avance en âge, plus on s'en rend compte. Eh bien, ça nous montre quoi? Sinon que nous ne sommes pas faits pour la terre. La terre c'est seulement un temps pour se préparer au ciel. Alors si on fait n'importe quoi d'autre, et puis qu'on pense à la religion en dernier ressort, mais on rate le but pour lequel on a été créé. Et d'autre part, si vous comparez ça à l'éternité, c'est ce qui dure toujours, 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 ça n'a jamais de fin. Quand votre âme sera séparée de votre corps, elle rentrera dans l'éternité, et elle sera dans l'éternité pour toujours, ça finira jamais. Alors vous pensez que ceux qui sont morts il y a 4-5 000 ans, qui ont passé comme nous 80 ans sur la terre peut-être, ou 85. Qu'est-ce que c'est que 85 par rapport à 5000 ans qui sont dans l'éternité? Alors là, ils se rendent compte que, ben non, on n'était pas fait pour ça. C'est pas pour ça qu'on était fait. Alors, songeons, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de bien nous faire comprendre que la religion, c'est pas la dernière roue de la charrette, au contraire, ça doit être la part principale de notre vie. Et si nous n'avons pas eu la sagesse de le comprendre dans notre jeunesse, eh bien le bon Dieu nous donne la vieillesse avec toutes ses infirmités, justement pour nous détacher des biens de ce monde. Ils ont tout quitté et ils l'ont suivi. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas suivre parce qu'ils ne veulent pas quitter ce qu'ils ont. C'est évident. Or à la mort, que vous le vouliez ou non, vous serez obligé de tout quitter. Même votre corps, vous serez obligé de quitter. Vous serez obligé de quitter vos parents, votre maison, tout ceci. Comme le dit le psaume, on n'emporte rien dans le tombeau. Nu, je suis né, nu, je serai rendu à la terre, dit saint homme Job. Alors, tout le reste, ça passe. Alors, demandons à la Sainte Vierge Marie qu'elle nous fasse comprendre que la religion doit être la part principale de notre vie. Et c'est d'autant plus important à comprendre que ceux pour qui la religion n'est pas la part principale de la vie, bien probablement, ils ne seront pas sauvés. Et c'est normal. Dieu, par tout ce qu'il a fait, nous montre sa grandeur. Nous lui devons tout. Si nous le déconsidérons complètement, si nous pensons, oui, un petit peu à lui, quand on a un petit peu un souci ou autre seulement, et puis après on l'oublie, on fait comme s'il n'était rien du tout. Il y en a qui vénèrent leur chien davantage que ce qu'on devrait faire pour un enfant. Et pour Dieu, de qui est mille fois plus que tout ce qu'on peut imaginer, eh ben non, on le considère comme un rien, mais vraiment comme un rien. Comment voulez-vous que Dieu accueille dans son ciel des gens qui l'ont considéré pendant toute leur vie comme un rien? C'est pas possible.
Demandons donc à la très sainte Vierge Marie de nous faire comprendre cette importance, cet essentiel de la vie, la sainte religion, et de nous faire quitter, si ce n'est en acte, au moins en esprit, toute chose, pour pouvoir nous aussi suivre notre Seigneur au plus haut des cieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.